Vous écoutez, on lit pour vous.
Éducation des sourds. Un texte de la rédaction paru sur le site web de l'Association des sourds du Canada. L'Association des sourds du Canada, Canadian Association of the Deaf, ASC-CAD, promeut les droits de personnes sourdes à l'éducation de qualité, commençant à la naissance et tout au long de la vie, que l'on explique clairement le droit à l'éducation dans la Convention unie relative aux droits des personnes handicapées, CDPH. Le Canada était un des signataires originaux au CDPH et à l'éducation, et sous la juridiction du gouvernement provincial, que chaque province doit prendre les mesures appropriées pour faciliter l'apprentissage d'ASL et LSQ où l'environnement dans l'éducation sourde maximisera le développement universitaire et social et des mesures pour fournir aux professeurs sourds qualifiés pour l'éducation sourde. Notre position sur l'éducation. Le problème. Quelle est la meilleure approche et quel est le meilleur milieu pour l'éducation des enfants qui sont sourds? Notre position. Les enfants sourds ont le droit et ont besoin de recevoir un enseignement en langue des signes, qu'ils soient dans des écoles ordinaires ou dans des écoles provinciales pour les sourds. Le Canada a été un des premiers signataires de la Convention des Nations unies sur la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés. Cette Convention des Nations unies reconnaît aux personnes sourdes le droit à l'égalité d'accès à l'éducation et soutient leur droit à être instruits dans la langue des signes. Article 24, éducation. B. Faciliter l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes sourdes. C. Veiller à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles, et en particulier les enfants, reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les États-parties, c'est-à-dire les gouvernements, prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille, et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation au handicap et l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorées et alternatives et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées. L'Association des sourds du Canada, Canadian Association of the Deaf, croit que le premier besoin des enfants sourds est de maîtriser rapidement et sans peine une langue. Sur cette base, l'enfant aura les outils linguistiques pour apprendre une seconde langue, l'anglais ou le français, par exemple. La recherche démontre clairement que les élèves sourds qui sont très habiles en ASL, LSQ, obtiennent de bons résultats en apprentissage de l'anglais ou du français. Cela appuie le plaidoyer pour l'éducation bilingue. Renforcer la première langue de l'élève, qui lui est plus accessible, soutiendra son apprentissage de l'anglais ou du français. Il n'y a aucune recherche digne confiance pour appuyer les suppositions que le fait d'apprendre la langue des signes nuirait à l'acquisition d'une langue parlée et écrite. Au contraire, toutes les connaissances sur l'acquisition des langues appuient l'usage de la langue des signes comme première langue, même pour les bébés, même pour les enfants non sourds. Le succès du mouvement pour les droits des personnes handicapées, relativement à la fermeture des instituts pour les handicapés et à l'intégration des enfants handicapés dans les classes régulières, a malheureusement conduit les éducateurs, les conseillers en matière de politique du gouvernement et les professionnels de la santé à supposer que l'intégration est l'option à privilégier pour tous les handicapés. Dans le cas des enfants sourds, ce n'est pas vrai. Pour les enfants sourds, l'école ordinaire n'est souvent pas le milieu le plus habilitant. Au contraire, c'est souvent le milieu le moins habilitant. Les enfants sourds en classe régulière pourraient avoir beaucoup de mal à communiquer avec leurs enseignants, qui sont tous non sourds et qui, dans une classe de 20 ou 30 élèves, ayant des besoins et des compétences variées, ne peuvent pas donner l'attention particulière et les communications dont l'élève sourd a besoin. Vous écoutez « Éducation des sourds », un texte de la rédaction paru sur le site web de l'Association des sourds du Canada. Les services de soutien aux élèves sourds dans les écoles régulières sont très faibles. On n'offre jamais de tutorat en ASL, SLQ, même pas lorsque les autorités concèdent que la langue des signes est la première langue d'un élève sourd donné. Les gouvernements et les commissions scolaires doivent appuyer l'acquisition de leur première langue aux enfants sourds, y compris ceux d'âge préscolaire. Ils n'apprennent pas les ASL, LSQ par magie. Comme pour toute langue maternelle, un enfant doit être constamment exposé à l'environnement de sa langue maternelle. Un enfant qui n'a pas ce genre d'exposition risque de ne pas développer sa langue maternelle, ce qui conduit à des problèmes d'alphabétisation et des problèmes cognitifs à l'avenir. Il est très rare qu'un élève sourd isolé ait accès aux services à plein temps d'un interprète ASL-SLQ de niveau 8. Et s'il y a des interprètes, ce sont des gens qui n'ont pas été agréés par les tests, comme celui du système d'évaluation du Canada. De plus, ils ne travaillent que dans la salle de classe, ce qui laisse l'enfant seul dans la cour de récréation et aux activités extrascolaires. En outre, des études prouvent que lorsqu'un interprète travaille seul en salle de classe, son travail est si truffé d'erreurs au bout d'une heure qu'il est inacceptable et même nuisible à l'éducation de l'enfant sourd. En général, l'élève n'aura pas d'interprète, mais plutôt un assistant en éducation qui a des notions de la langue des signes. Dans ces cas-là, l'assistant doit être interprète, moniteur et assistant à l'enseignant. Une triple responsabilité qui est non seulement impossible, mais contraire à l'éthique. Le rendement scolaire et l'acquisition du langage ne sont pas les seules raisons pour lesquelles l'ASC-CAD favorise les écoles pour les sourds centralisées comme option valable pour l'éducation des enfants sourds. Des considérations sociales, psychologiques et culturelles sont également importantes. Nous sommes conscients que de nombreux parents non sourds, d'enfants sourds, craignent de perdre leur enfant à la communauté des sourds. Ce sont des préoccupations normales pour des parents. Les professionnels et les décideurs ont tendance à attiser ces craintes et à suggérer des solutions fondées plus sur des raisons politiques et financières ainsi que sur les pressions des intérêts de la technologie pour les sourds, que sur les réels besoins et compétences de l'enfant sourd. L'Association des sourds du Canada, Canadian Association of the Deaf, croit fermement qu'il faut fournir aux parents des renseignements complets, justes et équilibrés avant qu'ils ne prennent une décision au sujet de l'éducation. Cela veut dire leur faire rencontrer des professionnels sourds, des leaders de la communauté des sourds, des éducateurs sourds et, bien sûr, les faire visiter des écoles pour les sourds. Il faut aussi leur expliquer les bienfaits, les limites et les risques de chaque option éducative pour leur enfant sourd. Les parents ne devraient jamais subir des pressions pour décider sans avoir l'occasion de rencontrer et de converser avec des personnes sourdes. Après tout, qui est le plus à même de connaître les avantages et les désavantages des diverses approches éducatives que ceux qui les ont vécues et qui en vivent les résultats? La question de la surdité n'est pas un enjeu dans une communauté comme une école provinciale pour les sourds. En d'autres termes, la surdité étant la norme, on la remarque rarement et l'on n'en fait pas une préoccupation ou un obstacle. Par conséquent, l'enfant a plus de chances d'apprendre dans une communauté saine où la communication et l'information sont fluides. La salle de classe est conçue pour les élèves sourds. La présentation des cours magistraux, de la prise de notes et de l'information permet aux élèves de suivre activement le contenu académique au lieu de devoir déchiffrer un contenu qui n'est pas présenté d'une manière où eux aussi, ils peuvent fonctionner sans effort et équitablement. Ils ont la possibilité de participer activement aux activités dans la salle de classe en signant leurs pensées, leurs questions et leurs réponses immédiatement dans une interaction directe entre eux-mêmes, leurs pairs et leurs enseignants sans avoir à passer par un interprète. Par contre, l'enfant sourd dans une école régulière est généralement isolé. La recherche au Canada et aux États-Unis a révélé que la situation la plus commune d'un enfant sourd en classe régulière est qu'il est seul et qu'il y a seulement un autre enfant sourd dans l'école. Cela affecte profondément ses rapports sociaux, ses aptitudes sociales et sa capacité à interagir avec les autres. Dans une école pour les sourds, l'enfant sourd n'est pas isolé et il ne se démarque pas des autres en étant différent. L'enfant est parmi des pairs sourds avec qui il partage une langue et une culture dans laquelle chaque personne peut participer également, confortablement et naturellement. La communication et l'interaction sans obstacle sont extrêmement importantes, non seulement pour la réussite académique d'un élève sourd, mais également pour son estime de soi, pour sa perception de soi et pour son développement social. L'enfant sourd dans une école ordinaire a peu ou pas de contact avec d'autres personnes sourdes. Il n'y a presque pas d'enseignants, d'administrateurs ou autres employés sourds dans les écoles ordinaires. Donc, il n'y a pas de modèle pour l'enfant sourd. La plupart des enseignants non sourds ne sont pas en mesure de répondre aux besoins éducatifs et socioculturels des enfants sourds. L'enfant sourd, en milieu scolaire ordinaire, n'est pas exposé à la culture sourde et, naturellement, ne reçoit aucune leçon sur l'histoire de la surdité, ses langues, son art, ses comportements ou ses valeurs. Essentiellement, l'enfant demeure étranger dans un pays étranger. Au contraire, dans une école pour les sourds, l'enfant est exposé à de nombreuses autres personnes sourdes et modèles sourds, comme à la culture sourde. Ici, il se trouve chez lui. L'Association des sourds du Canada, Canadian Association of the Deaf, appuie la philosophie de l'éducation bilingue et biculturelle. Cela signifie que les enfants sourds devraient apprendre en ASL-LSQ et en anglais-français. De plus, les enfants devraient être dans un milieu d'apprentissage qui reconnaît et respecte autant la culture sourde que la culture dominante des entendants. Nous croyons qu'une telle approche constructive à l'éducation des sourds fournirait à l'enfant sourd les outils nécessaires à l'acquisition de connaissances et de compétences, de même que l'estime de soi, et qu'en même temps, elle le prépare à vivre dans la culture dominante des non-sourds. C'était « Éducation des sourds », un texte de la rédaction paru sur le site web de l'Association des sourds du Canada.
Débat explosif sur un possible arsenal nucléaire canadien. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 4 août 2025 dans Le Devoir. Le Canada devrait-il se doter de sa propre force de dissuasion nucléaire? La question pouvait paraître saugrenue il y a quelques années, mais elle préoccupe désormais plusieurs analystes. Et certains n'hésitent pas à répondre positivement à une telle proposition, dans un contexte de tension avec la Russie et de désengagement des États-Unis et de ses alliances militaires. Eh bien, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. Je pense qu'il est temps pour le Canada d'envisager sa propre force de dissuasion nucléaire, écrivait ce printemps Jamie Carroll, ancien directeur national du Parti libéral du Canada, dans les pages du Hill Times. Celui qui a conseillé deux premiers ministres canadiens basait son argumentaire sur la volonté américaine de restreindre ses interventions à l'étranger et de cesser d'assumer son rôle de gendarme de l'Occident. Comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a appris, les États-Unis de Donald Trump ne sont pas plus fiables comme partenaire militaire contre la Russie qu'ils ne le sont comme partenaire commercial pour le Canada, écrivait-il, en suggérant l'achat de sous-marins et de missiles nucléaires. Depuis, des appels semblables se sont fait entendre dans le Globe and Mail ou encore le National Post. Des appels à contre-courant de la politique traditionnelle du Canada, qui a renoncé à ses armes nucléaires depuis plus de 40 ans, en plus d'être signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Les armes nucléaires sont quelque chose d'horrible. Ce sont, par contre, l'un des rares outils disponibles à l'heure actuelle qui peuvent réalistement dissuader une attaque, une invasion ou une tentative d'annexion de la part d'une superpuissance hostile, fait valoir Esha Ahmad, professeur agréé de sciences politiques à l'Université de Toronto. Cette spécialiste des relations internationales arrive à cette conclusion en raison de la difficile conjoncture géopolitique marqué par l'hostilité croissante de la Russie face aux démocraties et le repli sur soi des États-Unis de Donald Trump. Historiquement, les États-Unis ont toujours couvert leurs alliés démocratiques avec leur arsenal nucléaire, et c'est pourquoi les armes nucléaires n'ont pas proliféré dans ces pays. Mais Trump a érodé ses garanties de sécurité, et les États-Unis sont dans une phase de déclin démographique rapide. Cela laisse la Grande-Bretagne et la France comme les deux seuls pays démocratiques en Europe à posséder l'arme nucléaire, écrit Mme Ahmad dans un échange de courriel avec Le Devoir. Pour s'opposer à la menace russe, elle propose la création de ce qu'elle appelle une force nucléaire démocratique qui unirait le Royaume-Uni, la France et éventuellement le Canada. Si on ne peut pas dissuader les puissances hostiles de nous attaquer, on se présente en victime. Il y a très peu de moyens de dissuader des superpuissances et les armes nucléaires sont les plus efficaces. Acquérir des armes nucléaires serait dangereux. De même, ne pas posséder d'armes nucléaires dans le contexte mondial est aussi très dangereux, soutient-elle. Même si le Canada dépensait jusqu'à son dernier sou pour sa défense, il n'arriverait jamais à une parité militaire avec les États-Unis, la Chine ou la Russie, ajoute-t-elle. Mais les armes nucléaires éliminent la nécessité d'une parité militaire conventionnelle. C'est ça, la dissuasion nucléaire. C'est la forme de paix la plus laide et la pire de l'histoire de l'humanité. Mais voilà où nous sommes rendus. Fausse bonne idée? Émile Lambert-Deslandes, chercheur et candidat au doctorat au département d'études politiques de l'Université Queen's, s'inscrit en faux contre une pareille proposition. C'est s'imaginer que l'arme nucléaire peut régler tous nos problèmes, que dès qu'on l'acquiert, tout d'un coup, on est protégé de tout. Or, si c'était le cas, pourquoi est-ce que les pays européens investissent dans leurs forces conventionnelles? Pourquoi les États-Unis ont-ils la plus grande armée au monde? L'arme nucléaire, ça permet de se protéger de certains cas de figure, mais ça ne permet pas nécessairement de se protéger d'un conflit conventionnel, affirme-t-il en entrevue avec Le Devoir. Et dans la logique d'un affrontement potentiel avec nos voisins du Sud, un arsenal nucléaire, ça ne protège pas contre des sanctions économiques, ni contre une logique conflictuelle à Washington. Les coûts d'un tel programme seraient également astronomiques, observe-t-il. Les États-Unis dépensent davantage sur leurs armements nucléaires que le Canada pour l'ensemble de sa défense, explique le chercheur, avant de comparer une telle entreprise avec des programmes plus modestes. La France et le Royaume-Uni dépensent des milliards chaque année pour leurs programmes nucléaires, et ce sont des programmes très matures qui sont le fruit de décennies d'investissement. Alors que nous, il faudrait essentiellement partir de zéro, rattraper le temps perdu et le faire sans l'aide de nos alliés les plus proches, puisque les États-Unis risquent fort de s'opposer à une telle entreprise. La création d'une bombe nucléaire implique non seulement l'enrichissement d'une quantité suffisante d'uranium et le développement de la technologie nécessaire pour contenir sa puissance sous forme d'explosifs, mais aussi le développement de vecteurs pour l'utiliser, précise M. Lambert-Deslandes. Par exemple, acquérir des missiles, des avions ou des sous-marins capables de lancer des armes nucléaires, ce qui requiert aussi des investissements considérables. Ce scénario-là impliquerait, selon moi, de cannibaliser le budget de la défense avec le volet nucléaire. C'est un problème en soi dans un ministère où il y a depuis des décennies un manque d'investissement, ajoute le chercheur. Plutôt que de se lancer dans l'aventure nucléaire, il faut réduire la dépendance du Canada à l'égard des États-Unis sur les questions militaires, ajoute Stéphane Roussel, professeur de sciences politiques à l'École nationale d'administration publique. Cela signifie être capable d'intervenir, de patrouiller et de contrôler ce qui se passe dans le territoire canadien. Ce serait un pas énorme dans un certain nombre de champs d'activité d'être capable d'agir par soi-même sans avoir recours aux États-Unis. C'est déjà un très gros programme. Et jusqu'à preuve du contraire, souligne M. Roussel, la dissuasion nucléaire américaine continue à s'appliquer à l'échelle du continent nord-américain. Je ne pense pas que le Canada aurait quoi que ce soit à gagner en prétendant se doter de sa propre capacité nucléaire. C'était « Débat explosif sur un possible arsenal nucléaire canadien », un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 4 août 2025 dans Le Devoir.
Au large de la côte nord, la cuvette de Mécatina regorge de vie. Un texte d'Alexis Riopel paru le 11 juillet 2025 dans Le Devoir. Au large de la basse côte nord, entre Tête-à-la-Baleine et Blanc-Sablon, existe une cuvette, sorte de dépression dans le fond marin, où les eaux froides du courant du Labrador s'accrochent les pieds. Glacial et oxygéné, l'endroit est exceptionnel du point de vue océanographique, mais n'avait jamais été étudié en détail. Voilà maintenant que c'est chose faite, et les résultats ne déçoivent pas. Éponges, anémones, coraux mous. Ce qu'on a vu était très riche en termes d'abondance, surtout sur les murs rocheux, lance avec enthousiasme Geneviève Faye, biologiste à l'Institut Maurice-Lamontagne de Pêche et Océan Canada et co-chef de cette mission à bord du brise-glace Amundsen. La densité faunique observée était vraiment frappante, ajoute-t-elle en entretien avec Le Devoir depuis le navire grâce à une connexion Internet satellitaire. La campagne océanographique de 9 jours, qui alliait 35 scientifiques de différents établissements, vient de s'achever. Une foule de mesures et d'observations ont été réalisées, dont l'exploration du fond marin avec un petit sous-marin téléguidé, appelé ROV, dans le jargon, Remotely Operated Vehicle. Ce véhicule, déployé depuis le pont de l'Amundsen, plonge dans les profondeurs de la mer pour y capter des images et y récolter des échantillons. Des pilotes le manœuvrent depuis le navire. « On a réussi à faire 9 super plongées », raconte Mme Faye. « On a vu différents types d'habitats, des plaines meubles, des falaises rocheuses, des surplombs rocheux. Ceux-ci étaient ultra-densément recouverts d'organismes vivants. On ne voyait même plus la roche. Aux invertébrés énumérés plus haut s'ajoutent des crevettes, des étoiles de mer, des poissons cachés dans les interstices. C'était pas mal excitant. Sur les parois, il y avait énormément de vie. Nous avons vu de magnifiques jardins d'anémones et de coraux, renchérit Gabrielle Inglis, une pilote de ROV chez Amundsen Science, l'organisation qui soutient le programme scientifique de ce navire de la garde côtière canadienne. A priori, aucune espèce très rare n'a été observée, mais le travail d'identification n'est pas terminé. Les chercheurs continueront d'analyser les images, mais aussi les échantillons d'éponges et de corail prélevés par le ROV. Un secteur unique dans le Saint-Laurent. La cuvette de Mécatina est un environnement essentiellement intact. On y pêche très peu, hormis le crabe des neiges. En raison de sa bathymétrie complexe, la pêche par chalutage, qui consiste à racler un grand filet sur le fond marin, n'y est pas pratiquée. Quelques navires y circulent, mais ce n'est pas un corridor maritime majeur. D'une profondeur atteignant 280 mètres, la cuvette de Mécatina s'emplit d'eau très froide en provenance de l'Arctique. Tout un contraste avec le reste des eaux du Golfe, explique Mme Faye. Cette zone ne subit pas la rapide désoxygénation observée ces dernières années dans les profondeurs de l'estuaire du Saint-Laurent, où les eaux chaudes et pauvres en oxygène du Gulf Stream se fraient un chemin. Si les parois rocheuses de la cuvette ont époustouflé les biologistes, les plaines de sédiments meubles ne les ont pas laissées en reste. Les scientifiques y ont observé des zones regorgeant de gorgonocéphales, un invertébré de la famille des étoiles de mer doté de longs membres ramifiés. Habituellement, on en voit un par-ci par-là, mais là, c'était un véritable champ de gorgonocéphales, dit Mme Faye, qui n'avait jamais rien vu de tel. D'autres scientifiques se consacraient à l'étude de zooplancton et du poisson. C'est le cas de Frédéric Maps, professeur de biologie à l'Université Laval, qui profitait d'une nouvelle caméra fixée sur la rosette de l'Amundsen, un carrousel de bouteilles et d'instruments descendus dans la mer au bout d'un long câble. Cet appareil imageur, une nouvelle acquisition, capte des millions de clichés des minuscules organismes qui traversent son champ focal. En vertu d'études de modélisation, M. Maps savait que la cuvette de Mécatina était un lieu propice à l'accumulation de zooplancton. Les organismes sont piégés dans cette zone profonde et ils restent là tranquillement pour passer l'hiver, explique-t-il. Les spécimens attrapés ces deux dernières semaines dans les filets de l'Amundsen confirment cette hypothèse. Krill et copépodes abondent dans la cuvette. Déjà à ce moment-ci de l'année, ces petits animaux sont repus, ayant dévoré des algues microscopiques fleurissant près de la surface au printemps. Ils amorcent leur descente vers les fonds marins, où les lipides accumulés leur permettront de survivre jusqu'en mars. Le zooplancton revêt une importance capitale dans la chaîne alimentaire, mais également dans le cycle du carbone. Les sels et les carcasses de ces animaux, qu'on surnomme « neige marine », tombent vers le plancher et y transportent du carbone capté à la surface. Une zone de protection. Les résultats préliminaires de la mission confirment que la cuvette de Mécatina est une zone très productive, souligne M. Maps. La région, un point de rencontre entre les eaux de l'Arctique et de l'Atlantique, offre par ailleurs de précieux enseignements sur l'avenir des mers plus nordiques. Ça en fait une bonne candidate pour une zone de protection, dit le professeur. Aucun projet de conservation n'est encore sur la table. Le but de la mission, explique Mme Fay, c'était de mieux caractériser cette zone unique, assez différente du reste du golfe, où nous avions peu de données. Ensuite, les informations recueillies seront disponibles pour les gestionnaires qui veulent planifier des aires marines protégées. Selon elle, la cuvette de Mécatina n'a rien à envier à d'autres secteurs du golfe reconnus pour leur biodiversité, comme la zone de protection marine du banc des Américains, au large de la pointe de la Gaspésie. Soulignons aussi que la cuvette de Mécatina est devant l'embouchure de la rivière du Petit Mécatina, dont Hydro-Québec a récemment étudié le potentiel hydroélectrique. Les barrages peuvent perturber le milieu marin à l'embouchure de la rivière. Mais la cuvette de Mécatina est relativement éloignée de la côte, souligne M. Maps. L'éventualité d'un barrage hydroélectrique ne faisait pas partie des éléments considérés par les chercheurs, indique Mme Fay. C'était, au large de la côte nord, la cuvette de Mécatina regorge de vie. Un texte d'Alexis Riopel paru le 11 juillet 2025 dans Le Devoir.
Tatouage d'inspiration autochtone, entre hommage et irrespect. Un texte de Marianne Laporte paru le 4 août 2025 dans Le Devoir. Le tatouage traditionnel autochtone poursuivant sa résurgence au Canada, une réflexion plus large résonne sur la fine ligne qui distingue l'appropriation de l'appréciation culturelle. C'est de moins en moins commun que des personnes allochtones aient des tatouages autochtones, reconnaît la tatoueuse Huron-Wendat, Terry Dactel. Mais l'artiste basée à Montréal déplore que certaines d'entre elles continuent de demander des symboles traditionnels issus de pratiques fermées, donc liées à des croyances sacrées réservées aux membres d'une communauté précise. Il y a une différence entre les tatouages culturels et traditionnels, fait-elle valoir. Elle explique que les tatouages traditionnels sont ceux impliquant des techniques et des motifs ancestraux, alors que les tatouages culturels faits à la machine peuvent adopter un style plus moderne. L'artiste, dont le style éclectique inclut des designs contemporains, estime dans tous les cas qu'il importe de ne pas se laisser tenter par l'exotisme ou l'aura mystique entourant les premiers peuples quand vient le temps de choisir un tatouage. À ses yeux, ce qui est important, dans ce contexte culturel, c'est l'intention qui motive le tatouage afin d'éviter une appropriation superficielle. Tu veux quelque chose qui honore ton arrière-arrière-grand-maman que tu penses autochtone? Quel était son nom? D'où vient-elle? Elle faisait partie de quelle communauté? À la suite de ces recherches, on va trouver une façon de l'immortaliser sur ta peau. Ces questions font peu à peu leur chemin vers les salons de tatouage situés hors des communautés autochtones. Le tatoueur Marc-Antoine Tétrault travaille à Tatouage Royal, une shoppe de la rue Saint-Denis qui se spécialise dans le style traditionnel américain des années 1920-1940. Lui aussi dit remarquer que la fascination des allochtones pour les motifs autochtones s'est essoufflée dans les dernières années. Néanmoins, il accepterait de les tatouer à des clients qui en font la demande malgré ses avertissements. Même s'il dit qu'il en éprouverait un certain malaise, il confie aussi devoir joindre les deux bouts en ces temps plus difficiles. Où situer la limite? Ça devient de l'appropriation quand on dénature la symbolique et qu'on ne comprend pas ce que ça représente, soutient de son côté Sonia Bonspiel-Boileau, cinéaste et scénariste mohawk, qui a coécrit la série Skindigenous sur cet art des premiers peuples. Madame Bonspiel-Boileau, dont la filmographie s'intéresse à la dualité autochtone-allochtone ainsi qu'aux conditions des femmes autochtones du Canada, explique que les tatouages traditionnels font référence aux coutumes et rites de passage, naissance, deuil, mariage et aux symboles associés à une nation ou à une famille précise. C'est là qu'elle situe la limite à ne pas franchir. Et même si le tatouage traditionnel est une pratique fermée, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas accueillant, souligne Terry Dactel. Elle réitère l'hospitalité de sa nation. Vous n'avez pas besoin de vous faire tatouer une double courbe Wendat au milieu du front pour aimer notre culture. Participez au powwow. Allez acheter du breakwork, perlage et des mocassins. Encouragez les entrepreneurs autochtones. En faisant ces gestes simples, vous faites partie de la culture et de la communauté. La revitalisation d'un art en dormance. Pour la tatoueuse Terry Dactel, la réappropriation de l'art corporel, après que les politiques d'assimilation et la conversion au catholicisme eurent sérieusement réprimé les pratiques traditionnelles de tatouage, a commencé tranquillement pas vite pour les Autochtones. Le mouvement contre le racisme systémique et la violence policière envers les personnes noires, Black Lives Matter, a suscité une prise de conscience générale depuis une dizaine d'années, à son avis. Tout le monde se demandait « Qu'est-ce qu'on fait de raciste? Qu'est-ce qu'on peut changer? » Avec les pensionnats et l'Orange Shirt Day, beaucoup de gens nous ont soudainement perçus comme des êtres humains. Madame Bonspiel-Boileau adhère aussi à l'idée que les réseaux sociaux ont contribué à cette revitalisation et situe sa renaissance dans la foulée d'Idle No More, un mouvement de protestation contre l'adoption d'une loi omnibus du gouvernement Harper qui entraînait, selon les manifestants, la violation des traités ancestraux. Selon la cinéaste mohawk, le tatouage chez les Autochtones était un peu mal vu avant cette période, surtout dans les cultures inuites et même chez les Premières Nations plus au sud. Pour se reconnecter aux méthodes ancestrales, qu'elle qualifie d'endormance plutôt que disparue, Terry Dactel raconte avoir mené ses propres recherches auprès d'aînés, de gardiens du savoir et des musées. « Je prends ce que mes ancêtres ont fait, puis je vais changer ça pour que ce soit moderne. Donc, ce n'est pas juste de m'inspirer de ma nation, c'est comment je me réapproprie le tatouage. J'ai conscience de ma responsabilité. Dans cette génération, ils vont regarder ce que j'ai fait. Croisement et partage. L'ambiguïté entre appropriation, réappropriation et appréciation concerne tous les partis, car la revalorisation du tatouage autochtone, qu'il soit culturel ou traditionnel, a entraîné un croisement entre les techniques. Un tatoueur autochtone qui maîtrise moins bien la technique stick and poke, où l'encre est appliquée point par point avec une aiguille, peut par exemple s'en remettre au skin stitching, où une aiguille et un fil sont trempés dans l'encre avant d'être cousus à travers la peau, même s'il n'en était pas coutume pour sa nation. Terry Dactel, qui a des clients de plusieurs origines, croit que des tatoueurs allochtones peuvent aussi tatouer des autochtones sans que cela pose problème. Par exemple, une personne pourrait demander un ours qui représente son clan parce qu'elle aime particulièrement son style artistique. Madame Bonspil-Boileau arbore pour sa part un tatouage maori. Sur le coup, elle a vraiment hésité, mais l'artiste lui a assuré qu'il n'avait rien utilisé de privé ou d'unique à sa nation. C'était vraiment beau comme moment, se remémore-t-elle. On a parlé pendant une heure et j'ai partagé toute ma vie. C'était Tatouage d'inspiration autochtone, entre hommage et irrespect, un texte de Marianne Laporte paru le 4 août 2025 dans Le Devoir.
Le dernier crieur de journaux de Paris. Un texte de Roger Cohen et Dmitri Kostiukov du New York Times, paru le 31 juillet 2025 dans Le Devoir. Parmi les cafés littéraires et les boutiques chics du quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, un petit homme malicieux, bras chargé de journaux, fait sa tournée en lançant son cri distinctif « Ça y est !» Son appel résonne dans les ruelles pavées. Ali Akbar, originaire de Rawalpindi, au Pakistan, est un homme au sourire facile, colporteur de journaux depuis un demi-siècle. Il agrémente parfois ses offres d'histoires inventées. « Ça y est, la guerre est finie, Poutine demande pardon », a-t-il récemment lancé, suscitant des rires amers. Du café de Flore à la brasserie Lip, deux institutions où gastronomie et culture se rencontrent, Akbar perpétue un métier en voie d'extinction. Il serait le dernier crieur de journaux en France. Le métier aurait connu son apogée à Paris en 1960, lorsque Gene Seberg fut immortalisé au cinéma, plusieurs journaux sous le bras, criant « New York Herald Tribune » sur les Champs-Élysées, poursuivi par Jean-Paul Belmondo. Personne, dans le film culte de Jean-Luc Godard, À bout de souffle, n'achète ce journal, sauf Belmondo, déçu de n'y trouver ni horoscope ni écho à son charme, inefficace face à la beauté et à la fausse innocence américaine de Seberg, une autre étrangère éprise de Paris, est venue y faire sa place. Akbar en est aussi. Grâce à sa persévérance et à son humour, il est devenu une figure du tissu culturel parisien, estime David-Hervé Boutin, entrepreneur dans le milieu artistique. Sa notoriété est telle que le président Emmanuel Macron lui a récemment décerné la Légion d'honneur, la plus haute distinction de la République. La médaille lui sera remise à l'automne lors d'une cérémonie à l'Élysée. « Cela m'aidera peut-être à obtenir mon passeport français », plaisante Akbar, parfois mordant, marqué par les revers de la vie. Il possède un titre de séjour, mais sa demande de nationalité reste embourbée dans la bureaucratie française. Akbar se déplace à une vitesse étonnante. Faisant preuve d'une énergie nerveuse à 72 ans, il parcourt plusieurs kilomètres par jour, vendant Le Monde, Les Échos et d'autres quotidiens de midi jusqu'à minuit. Peu intéressé par le numérique, il subsiste grâce à un réseau humain dans un quartier autrefois cher à Sartre et à Hemingway, aujourd'hui envahi de touristes à la recherche de marques. « Comment vas-tu, cher Ali ?» lui lance Véronique Voss, psychothérapeute, alors qu'il entre au café Fleurus près du Jardin du Luxembourg. « Je m'inquiétais pour toi hier avec cette chaleur. » La chaleur ne l'arrête pas, il en a vu d'autres. Il remercie Voss avec un grand sourire et enlève sa casquette bleu foncé siglée Le Monde. « Quand on n'a rien, on prend tout ce qu'on peut, » dit-il. « Moi, je n'avais rien. » C'était « Le dernier crieur de journaux de Paris », un texte de Roger Cohen et Dmitri Kostioukov du New York Times, paru le 31 juillet 2025 dans Le Devoir.
Violences fondées sur le sexe, faits, statistiques et incidences de Femmes et égalité des genres Canada. Un texte de la rédaction paru sur le site web Femmes et égalité des genres Canada. La violence fondée sur le sexe, VFS, désigne la violence exercée à l'encontre d'une personne en raison de son genre, de son expression de genre, de son identité de genre ou de son genre perçu. La VFS peut prendre de nombreuses formes : physique, sexuelle, sociétale, psychologique, émotionnelle, économique et facilitée par la technologie. Les statistiques et les faits suivants démontrent que la VFS est un problème grave et persistant au Canada, et qu'il est important de prendre des mesures pour la prévenir et soutenir les victimes, les personnes survivantes et leurs familles. Faits et statistiques. Population touchée et coût de la VFS. La VFS touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Voici certaines populations qui sont exposées au risque de VFS ou qui sont mal desservies lorsqu'elles subissent ces formes de violence. Les femmes et les filles. Les femmes et les filles autochtones. Les femmes noires et racisées. Les femmes immigrantes et réfugiées. Les personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexuées, et les autres personnes ayant diverses identités sexuelles et de genre, 2ELGBTQI+. Les femmes en situation de handicap. Les femmes vivant dans les collectivités nordiques, rurales et éloignées. La VFS est enracinée dans l'inégalité des genres et est encore intensifiée par les inégalités systémiques telles que le sexisme, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, le colonialisme, le racisme, le capacitisme, le classisme, la pauvreté et une histoire collective de traumatisme. La VFS peut avoir des effets sanitaires, sociaux et économiques négatifs durables, conduisant souvent à des cycles intergénérationnels de violence et de maltraitance. On estime que chaque année, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux du Canada dépensent des milliards pour les soins de santé, la justice et les réponses du système social à la VFS. On estime également que les entreprises canadiennes perdent des millions en raison de la perte de productivité et de l'incapacité à travailler des personnes qui subissent la VFS. Et surtout, les victimes de VFS paient des coûts directs et indirects considérables en ce qui concerne les possibilités et les conséquences tout au long de leur vie et d'une génération à l'autre. Homicides liés au genre. De 2011 à 2021, en moyenne, 102 femmes et filles ont été victimes d'homicides fondés sur le sexe chaque année au Canada, pour un total de 1125 sur cette période. Parmi ces homicides, 93 % ont été commis par un partenaire intime masculin ou un membre de la famille de la victime. Traite de personnes. La traite de personnes est un crime hautement fondé sur le sexe. Les incidents signalés par la police montrent qu'en 2019, 89 % des victimes avaient moins de 35 ans. 95 % des victimes identifiées étaient des femmes et des filles. Violence entre partenaires intimes. Au Canada, plus de 11 millions de personnes ont été victimes de violences conjugales, un type de violence fondée sur le sexe, au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. Les groupes suivants connaissent des taux de violence conjugale plus élevés. Les taux de violence entre partenaires intimes sont plus élevés chez les femmes en situation de handicap, 55 % les femmes LGBT+, 67 % les femmes autochtones, 61 % et les femmes vivant dans la pauvreté, 57 % que chez l'ensemble des femmes, 44 %. Agression sexuelle. Au Canada, plus de 4 femmes autochtones sur 10, 43 % ont été agressées sexuellement au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. 46 % des femmes autochtones ont été victimes d'agressions sexuelles au cours de leur vie par rapport à 33 % des femmes non autochtones. Comportement sexuel non désiré. Plus de 6 femmes sur 10, 61 % âgées de 15 à 24 ans et vivant dans des provinces canadiennes ont été victimes de comportements sexuels non désirés dans un lieu public en 2018. Victimisation avec violence. Les personnes transgenres et de diverses identités de genre subissent une victimisation plus violente. 59 % des personnes transgenres et de diverses identités de genre subissent une victimisation avec violence par rapport à 37 % des personnes cisgenres. Incidence de femmes et égalité des genres Canada. FEGC. Les statistiques montrent qu'il est important de prendre des mesures pour prévenir la violence fondée sur le sexe et de soutenir les victimes, les personnes survivantes et leurs familles. En 2017, FEGC a dirigé l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, qui est une approche pangouvernementale pour mettre fin à la VFS. La stratégie regroupe toutes les initiatives fédérales visant à prévenir et à contrer la VFS. 7 organismes et ministères fédéraux ont reçu du financement pour des initiatives précises. Depuis le lancement de la stratégie, le gouvernement du Canada a investi plus de 800 millions de dollars et 44 millions de dollars par année par la suite. À la suite du lancement de la stratégie, le ministère a réaffirmé son rôle de premier plan dans la prévention et la lutte contre la VFS en créant précisément un programme de financement de la lutte contre la violence fondé sur le sexe qui finance directement les organismes. Pendant la pandémie de COVID-19, la demande de services d'assistance téléphonique en cas de crise a considérablement augmenté partout au Canada. FEGC a travaillé avec les provinces et les territoires afin de mettre en place des accords bilatéraux qui représentent un engagement total de 30 millions de dollars sur 5 ans. Ce financement aidera à offrir des services, des ressources et du soutien plus robuste afin de répondre aux besoins urgents de toutes les personnes qui subissent de la violence fondée sur le sexe et de leur famille. De plus, FEGC a travaillé avec les ministres fédérales, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine pour mettre en œuvre le plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, lancé en 2022. Des accords bilatéraux flexibles totalisant 525 millions de dollars sur 4 ans ont été signés avec l'ensemble des provinces et des territoires pour répondre à leurs défis, priorités et besoins respectifs. Ces accords permettront d'orienter les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe d'un océan à l'autre. Tout le monde a un rôle à jouer pour mettre fin à la VFS. La campagne nationale de sensibilisation des jeunes, ce n'est pas juste de FEGC, et la campagne 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe visent à accroître la sensibilisation, à développer les connaissances et, en fin de compte, à changer les croyances et les actions pour mettre fin au cycle de violence que trop de Canadiennes et Canadiens subissent quotidiennement. C'était « Violence fondée sur le sexe, faits, statistiques et incidences de Femmes et égalité des genres Canada ». Un texte de la rédaction paru sur le site web Femmes et égalité des genres Canada.